Frères et sœurs, depuis le matin de Pâques, la liturgie nous offre quelques mots pour exprimer la joie profonde que nous recevons. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cette acclamation est accompagnée le plus souvent par un cri de louange que nous aimons chanter de toutes nos forces et sur tous les modes. Alléluia. Alléluia, louez Dieu. De cette manière, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il fait grandir et qu'il renouvelle. La vie qui dépasse la puissance du péché et la menace de la mort. Par sa résurrection, le Christ a fait entrer l'humanité dans une étape décisive de son histoire. Et lorsque nous célébrons le mystère pascal, nous sentons au plus profond de nous-mêmes que nous sommes appelés à vivre un passage comparable à celui de la mer Rouge, passage de l'esclavage qui opprime et qui rend triste à la grande liberté des enfants de Dieu. Par l'Évangile et par les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, nous recevons ce matin la visite du ressuscité, vraiment présent au milieu de nous. Tout commence par une salutation. La paix soit avec vous. De longue date, le prophète Isaïe avait annoncé la naissance du prince de la paix, ainsi que nous l'entendons au moment de Noël. Et désormais, tel est le signe de reconnaissance du ressuscité auprès de ses apôtres. La paix soit avec vous. En vérité, l'effet produit est plutôt celui de la crainte et de la stupeur. Les apôtres ne réagissent guère et semblent presque pétrifiés. Sans doute ne savent-ils pas encore de quelle manière réagir. Et nous les comprenons bien si nous gardons en mémoire l'épreuve redoutable du chemin de croix et le choc éprouvé devant la violence des hommes et la mort du Fils de Dieu. La belle aventure engagée à la suite de Jésus, 3 années durant, s'est achevée dans les larmes et dans la honte. Les uns se sont dérobés, les autres se sont enfermés en eux-mêmes. Le groupe des 12 a explosé en plein vol. Que reste-t-il de leur unité autour de Jésus ? À vue humaine, il n'en reste rien d'autre que des souvenirs devenus amers. Et pourtant, les voilà de nouveau réunis. Il manque certes Judas, mais l'avenir semble de nouveau possible. Les disciples d'Emmaüs viennent de leur offrir le récit d'une expérience brûlante, quand Jésus lui-même arrive au cœur de leur groupe et de leurs échanges. Et soudain, c'est le silence. Non plus celui de la mort et de l'angoisse qui s'est abattu au soir du vendredi. C'est plutôt le silence de l'attente et de l'espérance qui grandit depuis le matin de Pâques. Silence des paroles humaines qui laisse advenir une autre parole, inespérée et pourtant attendue, la parole de Dieu. Si nous regardons bien, si nous écoutons bien, nous percevons dans les récits de la résurrection une certaine difficulté précisément liée au langage. Quel mot pourrait rendre compte de cet événement indicible, cette réalité toute nouvelle qui dépasse les capacités humaines de compréhension et de représentation du monde ? Les apôtres demeurent muets durant un certain temps, car ils pressentent bien qu'il n'existe aucun mot qui soit à la hauteur de leur découverte. Le ressuscité est là, qui se tient debout devant eux. Que peuvent-ils lui dire? Que pourront-ils dire aux autres, tous ceux qui ne sont pas présents en cet instant? L'évangéliste lui-même hésite et balbutie. Il parle d'un esprit qui fait son apparition, puis il décrit la scène très concrète d'un repas de poisson. L'accès à la foi nouvelle se déroule d'une manière progressive et les apôtres témoigneront en tout premier lieu de leur expérience personnelle. Les deux compagnons d'Emmaüs racontent ce qui leur est arrivé sur le chemin. Les onze, à leur tour, raconteront ce qui s'est produit sous leurs yeux. Et nous-mêmes, que pouvons-nous dire de notre rencontre avec Jésus ressuscité? Nous aimerions peut-être trouver un raisonnement imparable, une sorte de théorème scientifique pour démontrer à tous l'évidence de la résurrection sans laquelle notre foi n'existe pas. Au cours de l'histoire, certains ont succombé à cette tentation. Or, nous savons bien qu'il n'est pas ici question de preuves matérielles, mais du témoignage de la foi. Et nous cherchons alors quelques mots pour dire ce que nous avons vécu. Après le temps du témoignage, vient le temps de l'enseignement. Et c'est alors Pierre qui est chargé d'en donner le premier exemple, en raison du choix exprimé par Jésus de lui confier la primauté. Au début du livre des Actes des Apôtres, nous entendons ainsi le discours qu'il prononça le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Par la suite, il s'attachera à développer le mystère de la foi, tantôt pour répondre aux questions qui lui sont posées, et tantôt pour édifier spontanément les personnes qu'il rencontre. De quoi leur parle-t-il? Non pas de vagues considérations sur les nuées divines, mais de la personne de Jésus. Il ne cesse pas de méditer le passage de la mort à la vie. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Nous devons garder en mémoire le contexte dans lequel ces affirmations sont prononcées. Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis l'arrestation et le procès de Jésus, sa mort en croix et sa mise au tombeau. Les plaies de la passion ne sont pas encore refermées, pas davantage que celles du reniement et de l'enfermement des apôtres. La prise de conscience de la violence et du mal est progressive, et Pierre met ainsi en lumière le passage dont il a été l'un des premiers témoins avec les jeunes chrétiens qui l'entourent. Passage de la mort à la vie, passage du péché au pardon, passage de la nuit au jour nouveau, passage des ténèbres à la lumière qui ne décline jamais plus. C'est le grand passage du baptême, le nôtre, et celui que nous allons maintenant célébrer avec Edith. Amen.